Aujourd'hui, nous entendons toujours donc les deuxièmes lettres Thessaloniciens et puis Matthieu. Et les deux lectures se font un bel écho, où finalement l'Esprit Saint nous parle de la vie intérieure et de ce qui se passe dans la vie extérieure, si je puis dire. Je vais entrer un peu dans le détail. Alors, cette fois-ci, j'ai été regarder d'un peu plus près les mots grecs qui sont rendus dans nos traductions, bon, d'une manière qui est certainement très juste et très bien. Moi, ce que je regrette, c'est de perdre quelque chose d'extrêmement incarné dans le vocabulaire. Alors je m'explique, il est question de peur, finalement, hein, n'ayez pas peur, on vous fait croire qu'il va arriver quelque chose, ne vous laissez pas effrayer. Voilà, alors dans le texte en fait grec, hein, on a plutôt le verbe, c'est être ébranlé loin de l'intelligence, le nous. Donc finalement, l'inquiétude, comme je l'ai évoqué il n'y a pas longtemps dans une homélie, c'est une défaillance des secours de l'intelligence. C'est dans le livre de la sagesse où on trouve ça. La peur n'est rien d'autre qu'une défaillance du secours de l'intelligence. Bon, alors c'est facile à dire, je ne parle pas de la panique. La panique, c'est pas maîtriser, c'est animal. Je parle de la peur, c'est vraiment un problème de gymnastique de l'intelligence qui est trop influencé par les images, par les sensations et qui ne parvient pas à maîtriser tout ça. Donc ça séduit une intelligence inquiète. Ensuite, il est parlé à deux reprises de réconfort. Laissez-vous réconforter, etc. Alors, je regrette pour ma part les deux mots. Hein, nous avons paraclésine et paraclésai. Et même sans connaître forcément le grec, vous entendez paraclé, qui peut forcément vous faire penser à quelqu'un. Donc c'est réellement la consolation, l'appel, l'exhortation, l'invitation, bref, c'est le jeu du Saint-Esprit. C'est le jeu de l'Esprit auquel nous conduit Paul lorsque l'inquiétude nous saisit. Bon, il y a des gens qui sont extrêmement sensibles aux nouvelles dans le monde. Alors il y en a qui en conséquence choisissent de ne pas écouter ces nouvelles parce que la fiabilité est parfois incertaine. Bon, je pense qu'il n'y a pas de méthode à adopter. Il faut se connaître et savoir que d'être connecté quasiment H24 aux nouvelles me rend malade, c'est l'intérêt du démon que je sois malade. La conclusion, vous la tirez tout seul. Hein. Voilà, et puis il finit son exhortation par l'espérance. L'espérance, c'est pas l'espoir. Hein. L'espoir, c'est humain. Je ne sais plus qui avait dit l'espérance, c'est ce qui naît quand il n'y a plus d'espoir. Bon, ce n'est pas forcément canonique, mais c'est une approche en tout cas. Et donc l'espérance, c'est une vertu théologale. C'est donné par Dieu. Hein. Vous savez peut-être que les vertus théologales sont connexes. C'est une astuce que le bon Dieu a inventée, qui est extrêmement pratique. C'est-à-dire que lorsque la charité augmente en nous, la foi et l'espérance en profitent aussi. C'est les vases communicants, si vous voulez. Et quand la foi diminue, la charité et l'espérance diminuent aussi. Alors c'est très astucieux, disais-je, parce que quand vous sentez que l'espérance diminue en vous, posez des actes de charité, ça va se communiquer à l'espérance et à la foi, ou posez des actes de foi, ça se communique à la charité et à l'espérance. Donc ça, c'est astucieux. Vous voyez, ça, c'est une œuvre de l'intelligence qui est loin de l'inquiétude, précisément, dont on parlait tout à l'heure. Bon, l'espérance, ça nous parle peut-être aussi, pour ceux qui connaissent un peu, de Peggy, mystère du porche de la deuxième vertu. L'espérance, c'est de l'ordre de l'enfance. Hein. Y a pas de doute, Peggy le montre très bien dans ce somptueux... l'un de ses plus beaux écrits, peut-être, encore qu'il y en a tellement. Voilà, donc ça, c'est... tout ça pour parler de la vie intérieure, on le voit bien, hein. L'inquiétude vient de l'extérieur, et l'intérieur, eh bien, c'est la vie dans l'esprit, finalement. Alors, je disais que dans l'Évangile, on trouve l'inverse. Bien oui, puisque Jésus fustige, finalement, l'attitude des pharisiens qui se soucient de l'extérieur. Et il leur dit, vous êtes restés à l'extérieur en vous inquiétant de pratiques qui sont légales, qui sont la loi, mais la loi, ça n'est qu'un panneau. Je dis déjà bien, bien souvent, mais des fois il faut le répéter, amartano, ça veut dire péché, faire un péché en grec, et amartano, ça veut dire manquer le but. On manque le but parce qu'on n'a pas suivi le bon panneau, et la loi, c'est le panneau. Alors, en fait, les pharisiens, là, ils sont subjugués, ils sont obnubilés par les panneaux. Ils oublient que le panneau, il indique une direction. Mais le panneau, il ne pénètre pas dans le lieu où on veut aller. La loi ne pénètre pas à l'intérieur, elle reste à l'extérieur. Et c'est pourquoi Jésus leur dit... Alors, dans le texte que j'ai, moi, c'est... vous avez oublié le jugement... la justice, la miséricorde et la fidélité. Bon, je sais pas si c'est encore ça qui est rendu dans le texte. Je suis un peu désolé, il y a écrit crisis. Crisis, c'est pas la justice, c'est le jugement. Miséricorde, c'est eleos. Eleison, c'est la compassion. C'est une forme de la miséricorde, la compassion. Mais compatir, ça veut dire souffrir avec. Vous pharisiens, vous restez légalistes, vous ne laissez pas votre cœur touché par la misère des autres. Et puis fidélité, c'est pisséine, pistéo, ça veut dire je crois, c'est la foi. Donc, bon, je ne vais pas dire que le texte est édulcoré, il faut avoir beaucoup de respect pour les gens qui font ces traductions qui sont, mon Dieu, bien difficiles. Mais oui, je vois ça, hein. Justice, miséricorde et fidélité, c'est ce qui est la version officielle. Bon, je regrette que on peut aller beaucoup plus loin, voilà ce que je veux dire. Voilà ce que je veux dire. On peut aller beaucoup plus loin. Alors la vie extérieure, c'est la vie de l'adulte, hein. Qui fait semblant, qui veut pas voir, qui essaie de se cacher. Bon, j'avais une pensée pour Antoine de Saint-Exupéry avec le Petit Prince et son éléphant et son boa. Bon, si vous connaissez pas, vous trouverez ça sur Internet assez facilement, hein, parce qu'on le trouve en téléchargement, il me semble. Où il montre son dessin à des adultes qui disent que c'est un chapeau, puis un jour il le montre à un enfant, et l'enfant lui dit « Ben non, c'est un boa qui a avalé un éléphant. » Et voilà, c'est ça l'astuce. Donc la vie intérieure, la vie extérieure, on ne voit bien qu'avec le cœur, cette phrase bien connue aussi d'Antoine. Vie d'adulte ou vie d'enfance, finalement, hein, l'Esprit Saint nous amène à une vie d'enfance, et voilà, quoi. Donc voilà, je crois qu'on peut tirer, vous voyez, des choses assez, assez bouleversantes, encore une fois, de cette écriture sainte qui est... c'est la parole de Dieu, quoi. Et donc, j'ai déjà mis les références, hein, dans d'autres commentaires, parce que je regretterais un peu de pas vous laisser faire vos affaires à vous aussi. Il y a donc, ce que je veux dire, j'évoque là le Nouveau Testament interlinéaire, grec et français. Bon, c'est un investissement, c'est sûr, c'est mieux de savoir lire le grec, hein. Sinon, c'est un peu moins drôle. Mais néanmoins, on a un mot à mot en dessous en français. Bon, c'est du mot à mot, hein, donc c'est un peu immangeable. Donc ce sont nos frères protestants qui ont fait ça, hein, Société biblique française. Mais voilà, ça existe aussi pour l'Ancien Testament. Bon, là, il faut un peu savoir lire l'hébreu, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, enfin, en tout cas, sachez que ça existe et que ça peut vous permettre vous-même de vous plonger dans l'écriture. En ayant bien sûr, hein, toujours ce réflexe de se dire, voilà, la traduction n'est pas erronée, on peut juste aller un peu plus loin. C'est comme quand on a recours, par exemple, à un texte en syriaque. Bon, la révélation nous a été transmise en grec, hein, c'est comme ça. Ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est la réalité. Maintenant, le syriaque est peut-être une rétroversion du grec, donc vous voyez que c'est un peu peu fiable, comme dirait l'autre. Néanmoins, ça nous donne une idée de ce que Jésus a peut-être pu dire de plus proche, puisque ces langues ont des cultures et des gymnastiques grammaticales extrêmement différentes. Bon, je referme ma parenthèse et ma digression, pardon. Mais donc voilà, vivons dans l'Esprit Saint. En nous laissant consoler, appeler, donc évidemment, hein, ça suppose du silence. Hein. Comment entendre le Saint-Esprit si on n'est pas dans du silence, dans une recherche de l'esprit d'enfance? Eh bien, que Dieu nous vienne en aide.